Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et François Malardo, et Jonathan Macardy, et Fred Vermel, qui est chez lui en Espagne, bien entendu, puisqu'il y avait le Classico en Espagne cet après-midi, le Barça qui a explosé le Real 3-0. Monfredo, chose promise, chose due, Karim Benzema qui a tapé le poteau en première période, il est sorti à la 66e. Alors, sous les sifflets du Bernabeu, c'est ça, Fredo?
Ouais, alors il est sorti de manière précipitée parce qu'il y a l'expulsion d'un défenseur, en l'occurrence Carvajal, donc il fallait bien sûr faire entrer Nacho. Et donc, le plus facile, c'était de sortir Benzema. Tu sors pas Cristiano Ronaldo, bien entendu. Et donc, encore moins Bernabeu ou encore moins dans un classico. Et là, les gens, voilà. Mais de toute façon, c'est le bouc émissaire habituel, Karim Benzema. Donc, ça étonne personne. Mais de toute façon, moi, je vous dis. Et les Espagnols, ils ont du mal à le comprendre, là. Tant qu'il y aura Zizou, il y aura Benzema. Si vous voulez virer Benzema, virez Zizou. Mais j'ai posé la question à Zizou,
on l'écoute,
justement,
si
sur Karim, on va l'écouter.
On va l'écouter, justement, Karim Benzema dans à temps, parce qu'il n'est pas prêt, c'est Jean Thomas qui est en train de le caler. Il faut qu'il rappelle Zizou, du coup. Étonné-toi par le traitement dont...
Non, on est dans un stade de foot où les gens sont tous versatiles, donc... Non, mais là il y a une mini trêve, donc en début janvier, s'il fait un bon match, ils l'applaudiront, voilà. Et puis dans un mois, ils le siffleront, ou dans trois semaines, c'est comme ça. Enfin,
c'est, y a rien à dire là-dessus. C'est un stade qui a sifflé Zidane, qui a sifflé Di Stefano, qui a sifflé Rento.
Mais non, mais
Raoul.
Il y a que les joueurs mauvais.
On va l'écouter, tiens, tu veux, Fredo, Zizou, qui était à ton micro justement, au sujet des sifflets dont Karim Benzema était la cible cet après-midi.
C'est un moment qui est compliqué, certainement. C'est un moment dur parce qu'en fait, c'est souvent aussi lui qui sort, c'est souvent lui qui se fait siffler. Mais bon, ça c'est le lot de tous les joueurs, de tous les moments. Quand il y a des moments un peu compliqués, difficiles, il va falloir être fort. Lui va l'être, moi je vais l'être avec lui, et puis tous les autres, tous les joueurs. J'ai pas pour habitude de façon de baisser les bras. Je pense que lui aussi et tous les autres aussi.
Jonathan?
Sur qu'il se fasse siffler, il fait vraiment pas un très bon match. Alors les gens ont la mémoire courte, mais sur le match, il est vraiment, c'est vraiment pas ça. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est que malgré le fait qu'il soit pas performant en termes d'organisation tactique, c'est que ce soit lui qui sorte. Parce qu'à ce moment-là, je te retrouve juste avec Cristiano. Et de toute manière, Kovacic sort.
Il
sort 12 minutes après Kovacic.
Ouais. Le changement qui était prévu n'était plus là. Non mais le changement qui était prévu avant le deuxième but et l'expulsion de Carvajal, c'était contre Asensio et contre Bale. Donc tu joues avec les deux sur les côtés et puis en pointe Cristiano Ronaldo, c'est ça qui était prévu.
4-1 quoi. Et effectivement, mais là où Fred a raison, c'est que tu peux pas sortir Cristiano.
Accueillons Moustapha, tu peux sortir avant. Supporter du Real Madrid qui veut réagir justement sur ces sifflets à l'encontre de Karim Benzema. Salut Moustapha.
Bonsoir messieurs.
C'est bon, Moustapha. Supporter triste d'abord, hein, Moustapha.
J'ai 3-0
face au Barça.
Je suis même parti chez ma belle-mère tellement j'étais pas bien. Je me suis dit que je vais pas passer le week-end chez ma belle-mère.
Mais il y a pour rien ta belle-mère, ça. Moustapha.
Ouais, mais c'est pas grave, c'est le cas tout de suite.
Comment elle s'appelle ta belle-mère?
Elle s'appelle Latifa.
Et bon, on l'embrasse Latifa parce que c'est pas cool ça. Il y a pour rien Latifa dans cette histoire. Alors qu'est-ce que t'en penses toi du traitement dont a été la cible Karim Benzema? Alors sifflé par Bernabeu.
Pour Benzema, bon, alors les sifflets à l'encontre d'un joueur, je pense pas que ce soit la faute de Karim Benzema si on perd ce soir spécialement. Je peux comprendre en fait l'énervement sur la durée. Karim Benzema, c'est un joueur de foot fabuleux, tout le monde le sait. C'est un très 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 grand joueur. S'il est aussi longtemps au Real, c'est pas pour rien. Mais depuis quelques temps, je trouve quand même qu'il est un peu en dessous. Je parle pas forcément qu'en termes de but, même des fois en termes de performance. Il est très précieux dans la conservation du ballon, il sait faire jouer les gens, il fait des espaces même pour Ronaldo, il n'y a pas de problème. Mais je demande un tout petit peu plus quand on connaît le talent du joueur. C'est pas, vous savez, quand un joueur est talentueux, si on lui en demande plus, c'est parce qu'il a le talent pour. Ça aurait été Mitroglou, je lui demande rien. Mais là, on parle de Karim Benzema. Et je comprends, moi des fois, ça me frustre. Je peux comprendre qu'il se fasse siffler. À un moment, je j'arrive pas à comprendre tout ce qu'il fait sur le terrain, son rôle, et que Zidane le défende, c'est normal, il va pas l'assassiner dans la presse. Mais je pense que Zidane, même lui, il voit qu'il est un peu en difficulté. Alors, le mettre sur le banc, et ce n'est pas la solution, surtout qu'on n'a pas d'attaquant de rechange. C'est pas, comment il s'appelle, Mayoral qui va faire la différence. Mais Benzema, en ce moment, la seule grande action qu'on retient de Karim Benzema en 2017, c'est ce qu'il a fait contre l'Atlético. Chose importante, puisque ça nous a permis quand même d'aller en finale, parce qu'on était bien dans la merde. Mais il n'y a pas grand-chose à retenir.
Moi, j'ai retenu le chiffre d'hier soir, quand même, hein, dans l'émission. 14 buts sur l'année 2017.
C'est pas grand-chose. Oui, c'est peu pour un attaquant.
Il a tenté 5 buts cette saison.
Attention, hein, c'est pas infamant comme chiffre. Mais par rapport au talent de ce joueur, par rapport à son statut, et tu l'as dit dans ce club-là,
si je vous écoute, le Real joue à 10, et ils sont très forts, le Real, parce qu'en jouant à 10,
ils ont
gagné la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, et la Coupe des clubs.
Non, mais sois pas malhonnête, on n'a pas dit qu'il jouait à 10, le Real, ou que Benzema était un handicap.
Quand on vous écoute,
moi, si tu m'écoutes, je pense que Karim Benzema, il traverse une année où il est en dedans. Voilà.
Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Zidane à ton micro d'ailleurs, Alfredo, il dit c'est un moment difficile.
Oui, bien sûr. C'est un moment difficile, c'est un moment difficile pour le Real aussi.
On peut le dire.
Après, tu dis oui, c'est un moment difficile, mais le Real termine là en 2017.
Moi, je dirais qu'il n'est pas en confiance parce que, comme l'a dit Fred, il tape souvent le poteau. Quoi.
Avant Benzema, quand il est très bon, qui les buts, ce qu'il a, en fait, ce qui fait qu'il apporte vraiment un plus au collectif, c'est qu'il est très bon dans le jeu. Il est très bon pour faire jouer ses partenaires. Et là, je suis désolé, depuis le début de l'année, il n'est pas bon.
Depuis que la BBC est là, c'est trois
Ligues des Champions.
Il me semble que l'année dernière, Isco était installé et que Bale était sur le banc.
Là où on voit le travail de Benzema par rapport à l'équipe, c'est le fait qu'il anime et qu'il apporte le liant.
Mais on le voit plus là. Fred, je vais juste te poser la question.
Vas-y,
Fred. Est-ce que tu es d'accord ou pas qu'il traverse une période de méforme?
Mais bien sûr.
Ok. Voilà, ça veut pas dire qu'il joue à 10 pour autant.
Et ça veut pas dire c'est pas remettre en cause
ce
qu'a fait
Benzema.
Mais
le problème, c'est qu'en plus, les gens, moi, j'ai la chance d'aller au stade aussi, et moi, je vois les mouvements qu'on voit pas à la télé. En plus, la réalisation en Espagne est pourrie, donc, on a du mal aussi à voir les choses. Donc, mais moi, je vois ce qu'il fait, et quand j'en parle avec des gens au sein du vestiaire, quand j'en parle à Zidane, mais ils en sont tous fous de Benzema. Donc, voilà, moi.
Non, mais tout le monde peut penser ce qu'il veut. Faut pas être fou du Benzema actuel.
Si vous savez ça mieux que moi, tant mieux, viens Moustapha, prends mon micro.
Viens
parler avec Cristiano, va parler avec Modric et va parler avec Zizou.
Je te dis, c'est pas ta mission.
C'est ce que me disent les mecs à moi en privé. C'est ce qu'ils me disent les mecs. Donc ils me mentent. Ok, ils me mentent. Voilà, très bien.
Non, mais il y a aucun problème. Et on va pas remettre tout le talent de Benzema pour une méforme. On est d'accord sur un an. Tu vas pas remettre l'ensemble de ses qualités. Mais les qualités actuellement, on ne les voit pas. C'est pas grave, ça veut pas dire que c'est devenu un mec inutile, mais actuellement on a le droit de dire qu'on les voit pas. Comme Cristiano, des fois quand il est mauvais, tu le dis. Bah Benzema, quand il est mauvais, tu veux jamais le dire. C'est pas grave, il va passer la gueule.
Mais je vais pas te dire qu'il était bon aujourd'hui, il a pas été bon aujourd'hui. C'est simplement qu'il a pas de cul parce que c'est lui qui se procure la meilleure occasion du Real, il tape le poteau.
Mais en fait, on dit la même chose, alors il y a pas de.
Je pense qu'en cette période de fête, l'important c'est qu'il y ait de l'amour.
Mais vous les
amis, Moustapha.
Mais non, mais Moustapha, il est comme un vrai supporter du Real, il est pareil que les mecs du Bernabéu.
Moustapha, justement, on avait lancé un sondage sur le compte Twitter de l'After. Le Bernabéu a-t-il raison de siffler Benzema lors du Classico?
Sûr que non.
58% de oui, il y a plus de 5000 votes. Hein. Je sais que ça va bien.
Attends,
on embrasse Moustapha. Bonne fête
salut
à Moustapha, toi, Moustapha.
Bonne fête.
À bientôt, Moustapha. Et t'es gentil avec ta belle-mère, sinon on vient de voir, Moustapha. Ça va pas ou quoi? Il est fou, lui. Ciao, Moustapha. Salut.
Non, mais c'est dur de le siffler quand tu prends en compte tout ce qu'il a fait.
Mais non, mais déjà siffler tes propres joueurs, mais moi je ne comprends pas.
Après le Bernabéu,
j'ai jamais compris ça.
Le Bernabéu est particulièrement exigeant. Enfin, ils sont un peu chelous parfois à ce niveau-là, même d'ailleurs. Tu le disais, il y a beaucoup de légendes du club qui ont été sifflés. Hein.
Bah Figo, il a été sifflé. Hein.
Enfin Figo, il y a eu... oui, c'est vrai.
Figo, Raoul.
Non, mais tous les grands joueurs du Real. ont été sifflés à Bernabéu. Alors, il y a un côté exigeant qu'on peut comprendre, mais franchement, des fois, aujourd'hui, par exemple, même à 1-0, les gens n'étaient pas derrière leur équipe, quoi. Et tu te dis qu'avec un petit peu d'appui, moi, parfois, j'envie, par exemple, les supporters de l'Atlético, qui, même quand ils se prennent des branlées, ils sont derrière. Vrai que ceux du Barça,
c'est
pareil.
C'est pour ça.
Je pense pas que ça va empêcher chiant, quoi.
Je pense pas que ça va empêcher Karim Benzema de dormir, ses sifflets. En revanche, s'il a un souci de sommeil, c'est plus, comme on l'a dit, par rapport à la période qu'il traverse actuellement, où il doit savoir lui le premier, qu'il est
pas bon. On a beaucoup parlé du Real, on a beaucoup parlé de Benzema. Parlons quand même du vainqueur, le Barça, qui a 14 points d'avance sur le Real Madrid ce soir. Il est plus là. Ah bah si, il est là, Anthony, supporter du Barça. Salut Anthony.
Salut tout le monde.
Et voilà, Anthony. On est heureux, Anthony, qui a passé un joyeux Noël.
Ah bah oui, j'ai passé un super Noël. Et en plus, un Noël d'autant plus surprenant cette année que pour une fois, alors je sais pas ce qui se passe, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Fred Hermel.
Vas-y.
Bah tu connais le foot, c'est tout.
Peut-être, je le prends comme un compliment en tout cas. C'est que là où je le rejoins totalement, c'est que la première mi-temps du Real, elle est exceptionnelle, mais à un point dont les gens ne se rendent pas vraiment compte parce qu'il y a 0-0. Mais c'est une mi-temps où je suis d'accord avec lui, si tu ouvres le score, ça peut vite tourner à la démonstration. Parce que dans cette mi-temps-là, sur le plan tactique, sur le plan physique, il mange le Barça comme j'avais pas vu le Barça se faire manger depuis une éternité. Sauf qu'ils arrivent à la mi-temps à 0-0 en ayant une dépense physique astronomique. Donc en arrivant à 0-0 à la mi-temps, c'est comme s'ils étaient menés finalement.
Exactement.
Et dès qu'ils baissent un peu le pressing, ce qu'on se rend pas compte, c'est que les Iniesta, les Busquets, les Messi, vous leur laissez 50 cm de plus, c'est comme si vous leur laissiez des boulevards.
Ah, c'est sûr, ça rend compte. Hein.
Ils sont extraordinaires et dès que le Real baisse un peu son intensité, le Barça se remet à jouer et la deuxième mi-temps, le score, faut être honnête, le score est très très sévère pour le Real.
Mais c'est la réalité du truc, c'est qu'à un moment, tu as tellement dépensé d'énergie et puis là, ce Barça-là, il est excellent. Il est très bon, parce que Messi, il est très bon, parce qu'Inès est très bon, parce que Paulinho, mais ils sont allés chercher en Chine, mais le mec, c'est pas Maradona, mais le mec, je peux te dire qu'il va être important
bon
celui-là, hein, et notamment en Europe. Hein.
Et leur entraîneur est très bon et fait les choses.
Ah bah alors, c'est mon article demain dans l'équipe, c'est sur Valverde, parce qu'il a tout compris, quoi. Valverde a tout compris. Donc.
Moi, je trouve toujours, mais bon, c'est peut-être un postulat de ma part, hein, qu'un entraîneur qui a fait de bons résultats avec un club où tu ne peux recruter que des Basques, il a forcément des qualités.
Mais bien sûr.
Marcelo Bielsa,
j'ai jamais dit qu'il n'avait pas atteint une finale de Coupe d'Europa League avec l'Atlético.
On remercie Anthony.
Un message par rapport à Anthony.
Non, on disait merci, on te souhaitait de bonnes fêtes, Anthony.
Oui, merci à Anthony,
je pense que le Barça, là, ils sont les grands favoris pour gagner la Liga, mais même en Europe, maintenant, c'est la meilleure, ce que j'ai vu ce soir, pour moi, c'est la meilleure équipe de, vu comment a pu jouer le Real, et vu le résultat à la fin, je pense que le Barça est redevenu la meilleure équipe d'Europe, là. Parce que c'était un match au sommet, ils ont été vendus.
Vas-y, Anthony.
Oui, il y a City aussi.
Ter Stegen.
Exceptionnel. C'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Donc,
il est incroyable parce que sur la première mi-temps qu'il fait. Après, est-ce que c'est le meilleur, pas le meilleur, mais il est dans les 3-4.
Anthony, puisque tu parles de Ter Stegen, Anthony, sur sa ligne et sur les angles fermés, toutes les postures, les positions, c'est des positions de gardien de hand.
C'est du gardien de hand, mais ça, c'est l'école allemande. Quand vous regardez la plupart des gardiens allemands, même les moins connus, les Bert Leno, etc., c'est des gardiens qui
On l'a pas vu chez notre ami Kevin Trapp, mais...
Ouais,
il est d'une agilité.
Non, on rigole, c'est vrai, on l'a pas vu.
Non, mais c'était passé méchant.
Kevin Trapp est un peu atypique.
Il est d'une agilité, Ter Stegen.
On peut mettre en lumière aussi le mort-vivant qui revient, Vermaelen, très bon.
Mais parce qu'on parle des gardiens, vous savez, moi je trouve que Navas, il a fait son match aussi.
Ah oui,
Navas, il a fait un but.
Les deux défenseurs centraux, Vermaelen, excellent.
Ouais.
Et Varane, moi j'ai jamais été convaincu de toute manière, mais encore.
Non, mais
là,
ce soir c'est le meilleur de la défense, hein, du Real, Varane. Hein.
Ouais, mais dans les alignements, je trouve pas toujours très clean. Enfin, je trouve mon club qui manque encore un peu de méchanceté.
Anthony,
enfin, je sais pas.
Anthony, bonne soirée à toi, bonne fête à toi.
Salut Anthony.
Salut
Anthony.
Merci, c'est gentil Anthony, à bientôt. Merci, ciao ciao. Tiens, on te pose la question, Fredo, le 14 février prochain, bah il y a le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Real et le Paris Saint-Germain. Est-ce que le fait que, tu le dis d'ailleurs toi-même, le Real est très certainement dit adieu à la Liga, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le PSG ça?
Ah bah bien sûr quoi, bah oui, parce que si on prend l'histoire, à part la saison dernière où le Real a fait le doublé Liga et Ligue des Champions, c'était pas arrivé depuis plus de 58 ans il me semble, le Real a gagné toutes ses Ligues des Champions les années où ils ont été mauvais en Liga, où ils ont été largués en Liga. Donc et puis la Ligue des Champions c'est la compétition du Real, donc il est bien évident que si il n'y a pas d'ici au 14 février bah un Barça qui s'écroule et le Real qui se refait la santé en Liga. Bon bah il était, c'est pas que le Real va choisir, c'est mais à partir d'un moment bah automatiquement t'as pas la même attitude.
Ça a rien à voir, voilà. C'est pas ça. Ça change rien. Enfin si ça, il y a quelque chose qui va changer en février, c'est que je pense, alors que le titre soit loin, je pense que ça jouera pas sur la finale des champions parce que ça sera un huitième de finale, tu seras qu'en février et t'as quand même deux autres équipes qui carburent avec Valence et l'Atlético, et je pense que c'est pas en février que tu lâches une compétition. En revanche en février qu'on se voit pas à la face, ça sera une autre équipe.
C'est pas de lâcher une compétition, c'est que quand tu sais que la seule compétition que tu peux gagner importante, c'est plus les gars, c'est les champions.
Plus de motivation,
tu penses ? Toujours un petit peu plus. Voilà.
Peut-être. Alors non, peut-être là-dessus.
Un peu plus de motivation de quoi ? De la part du Real ? Pour la
non, mais, non mais non. C'est qu'à partir du moment mais non,
c'est une compétition ça veut dire, qui ça veut dire est quoi presque la
ça veut dire quoi non mais attends mais ça veut dire quoi tout simplement soyons pratiques, ça veut dire que le week-end avant le 14 février, le week-end avant le 6 mars, si t'es en course en Liga, bah tu tournes pas. Si t'es plus en course en Liga, bah là tu peux te permettre de tourner
avant le match contre Valence. Tu seras en février et t'as quand même Valence et l'Atlético.
Tiens, justement, Fredo, t'as 30 secondes pour en parler.
Ouais.
Valence qui perd son derby face à Villarreal. Bon, ça arrange les affaires du Barça forcément. Ils sont pas très bien là, Valence, là, depuis 3-4 matchs. Hein.
Ouais, bah c'est un petit peu décevant parce que c'est vrai qu'à Villarreal, enfin ils ont perdu à domicile contre Villarreal. Zaza, il faudra qu'on en parle à la rentrée avec Simone Rovera. C'est vrai que Zaza est dans un voilà, il recommande un recommence un peu les énervements, les conneries, s'est encore fait expulser aujourd'hui, il se prend des cartons ridicules, etc. C'est une petite baisse de régime, mais Villarreal bien joué, mais vraiment très bien joué intelligemment.
Ouais, c'est une belle équipe.
C'est une belle équipe et c'est pas bonne nouvelle pour Lyon. Voilà, donc non, tout ça est très passionnant, mais c'est vrai que le Barça a fait, à cause justement de ce résultat, de la défaite de Valence et de la défaite hier de l'Atlético sur la pelouse de l'Espagnol, le Barça, oui, est très bien parti pour la Liga, mais c'est pas fait encore. Et cet excellent Valverde, qui est un type humble, intelligent, honnête et lucide, l'a bien dit aujourd'hui.
Okay.
Non, je serais ce serait pas prudent de penser que c'est fait.
Et t'as 30 secondes également, Fredo. Hier, on commentait cette information. Séville qui a limogé Toto Berizzo hier, son cinquième de Liga.
Ouais,
il y a une information qui a balancé El País aujourd'hui. Il y a plusieurs noms qui circulent pour lui succéder. On parle de Luis Enrique, de Javi Garcia et de Laurent Blanc également aussi. Alors c'est quoi ça? Info, intox. Paraît que Blanc serait pas très chaud. Mais il aurait été
que ça serait tombé du ciel pour lui.
Non, mais vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand il y a un entraîneur qui est viré, eh ben on prend la liste dans la presse espagnole, on prend la liste de ceux qui sont sur le marché, et puis on dit tiens. Non, il y a pas d'info. Moi, on m'a demandé tout à l'heure quelqu'un qui était important à Séville, s'en est où d'Ancelotti avec Séville. Ancelotti n'a pas envie d'aller à Séville non plus.
Ah, donc, moi, voilà,
on va attendre. Mais bon, Laurent Blanc, une très bonne cote en Espagne.
Je vais vous dire une chose. Tu bosses avec Séville depuis bientôt 2 ans, et avant que Toto Berizzo se fasse dégager, c'était avant le match contre Liverpool, et un haut cadre du club m'avait dit qu'un type comme Jürgen Klopp était exactement le profil qui les intéresserait un jour ou l'autre, sauf que là il y a un marché qui s'est ouvert.
Mais
il y a 6 mois,
ouais.
Peut-être combler un trou ou prendre quelqu'un sur le moyen terme. Mais si tu combles un trou, peut-être qu'en septembre, ils en reparlent.
Il se dit en Argentine qu'ils auraient contacté Gallardo, mais qui lui ne veut pas forcément venir en Europe maintenant. Mais ça pourrait être un choix.
Fredo,
voilà.
Les amis,
joyeux Noël, bonnes vacances.
Félix Navidad.
Je viens de recevoir un message d'un grand supporter du Barça qui vient de rentrer du Classico et qui est très content. Puis en l'occurrence, il était Premier ministre. Donc on le salue.
Là. Et Charles Puigdemont. C'est bien entendu lui.
Il connaît du monde.
Visite bien toutes les distilleries écossaises.
Mais pourquoi? Parce que Manuel Valls est un grand fan de l'After. Il les écoute tout le temps. Alors en plus, le soir d'une belle victoire du Barça, l'ancien Premier ministre veut prolonger son plaisir d'avoir vu son équipe gagner.
Pas oublier qu'il est à Légion, notre Fred.
Non, l'ordre du mérite. Non.
Bonne soirée, Fredo. Tu l'as bien mérité.
Adios, les amis, bonnes vacances. Et viva la vida. Et viva la Liga.
Félix Navidad. Et viva la Révolution. Merci beaucoup, Fredo. Bonne soirée, Fredo. Joyeux Noël. Bisous. Ciao, ciao. Bah quoi, c'est vrai, non? On va se faire une petite pause dans quelques instants. On reçoit Fred Hermel. On parle de la première ligue,
dis-donc. Fred Hermel, encore, t'as retiré comme hier.
Putain, mais c'est incroyable. C'est Philippe Auclair, vous le savez. Faut t'embêter. Personne ne me rattrape jamais.
Bah là, si.
C'est vrai que je suis cuit.
Toi, tu veux vraiment qu'il soit copain, hein?
Ah non, moi, je veux vraiment être cuit. Je suis cuit, là, mec. Je veux vraiment être cuit, ouais, c'est ça. Je vais être cuit, je vais être rôti, je vais tout ce que tu veux. On vous attend au 32-16, supporters des clubs de première ligue que vous vivez comme nulle part ailleurs grâce à RMC. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, avec François Manardo et avec Philippe Auclair. Salut Philippe.
Salut François, salut Jonathan, salut,
salut
à tous.
Salut Philippe. Philippe.
Tu vas bien?
Écoute, oui, je t'aimerais que je suis comme toi, sans doute, mon petit Nico.
Cuit.
Un peu cuit, oui, parce que c'est quand même mon cinquième match de la journée. Je me suis tapé parce que je suivais le Classico, bien évidemment, en même temps qu'Everton Chelsea. Je sais même plus. Tottenham, oui, j'ai regardé Tottenham, bien évidemment.
Allez,
j'ai regardé Manchester City, et puis bien évidemment, j'ai regardé le match que j'attendais. On en avait parlé hier soir, je te disais que ça serait le match du week-end, ça l'a été. Ouais. Entre Leicester et Manchester United, où on a pris un pied pas possible. Un scénario incroyable, des faits de jeu incroyables, et puis également un match qui a une grosse importance dans le contexte de la course au titre, parce que là, je pense que l'on peut dire ce soir que c'est plié, et que si jamais Manchester United avait tenu le coup, ils étaient en course pour terminer avec 84 points, ce qui est quand même un total absolument remarquable. Là, ils sont à 42 après 19 matchs, mais bon, Manchester City est à 55 après cette victoire 4-0 sur Bournemouth. Et ce qu'on a vu en plus, je pense que ça va encore faire jaser, hein, mon cher Nico. Je pense que ça va faire jaser. Après ce qui s'est passé contre Bristol City en Coupe de la Ligue. Ah.
La défaite en League Cup, ouais, de Manchester United. Ouais.
Oui, oui, il s'était fait balader sur le terrain et José avait pas été très très bon perdant, dirons-nous. Là, ce soir, il a dit, c'est pour ça, je vous ai rejoint un tout petit peu plus tard que je l'espérais. Je voulais écouter absolument ce que José aurait à dire après cette rencontre et. En l'occurrence, il a dit que ça aurait dû être une victoire facile. Et je ne pense pas que ce soit vraiment comme ça que nous avons vécu cette rencontre.
Ah non. Alors, on va commencer par ce fameux match. C'est l'affiche de la 19e journée, l'une des affiches de la 19e journée. Leicester-Manchester United, 2-2 donc dans ce match. Hein, le Leicester de Claude Puel, quand même. Hein, et le Manchester de José Mourinho, tu l'as dit, qui vient d'être éliminé en Coupe de la Ligue face à Bristol City. Comment tu l'expliques, toi, ce nouveau match nul, cette nouvelle contre-perf, c'est quoi? Parce qu'ils étaient pas mal en seconde période, ils ont eu beaucoup d'opportunités.
Ils ont eu beaucoup d'occasions, ça ne fait absolument aucun doute. Tu as Jesse Lingard qui frappe l'extérieur du poteau, qui fait poteau et sortant quand tu te dis que le but est vide. Tu as Romelu Lukaku qui distribue les caviars, qui fait un très très bon match ce soir, Romelu Lukaku, dans un rôle un petit peu différent de celui auquel on est habitué. Hein, pas là pour finir les actions, mais pour donner les ballons de but. Tu as une équipe de Manchester United qui est menée 1-0 sur un contre absolument sublime de Leicester, mais qui égalise par Juan Mata et qui prend l'avantage par Juan Mata, lequel Juan Mata est remplacé de manière, à mon avis, incompréhensible par José Mourinho, alors qu'il reste 7 minutes et que tu es à 11 contre 10. Tout ce que tu as à faire, c'est à contrôler le match. Il sort le joueur qui était celui qui contrôlait mieux le ballon, mais bon, ça c'est son problème. Il est hyper négatif et du coup, les occasions perdues... Tu les payes cash contre une équipe comme Leicester, qui est une équipe où il y a du talent, et où j'ai vu ce soir, mon cher Nico, je pense, ce qui restera mon but de l'année.
Ah, lequel?
Le but de Vardy.
Ah,
je t'avouerai que c'est une pure merveille de contre, et c'est une chose qui m'a frappé. Je suivais ça avec un ami qui est un fan de Leicester, et dès que le ballon est entré dans la cage, je lui ai dit, écoute, tu renverses ça, tu mets ça dans un miroir. La passe de Mahrez pour Jamie Vardy, c'est la passe de Pelé pour Carlos Alberto en 1970.
Tu sais ce qui est fort, en fait.
Quand tu attends, il laisse le ballon passer au-dessus de sa tête.
C'est dingo
ce qu'il fait.
Ouais.
Il laisse le ballon passer au-dessus de sa tête. Il prend tout son temps. Tu te dis, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la course de Jamie Vardy. Oui. Il passe ce petit ballon dosé au millimètre dans la course. Bang.
C'est ça qui est beau. C'est la prise d'information au moment où il fait son
coup.
C'est assez formidable. Et la course de Vardy aussi, elle est extraordinaire. Parce qu'il sème deux défenseurs. Faut revoir toute l'action. Faudrait revoir sur un plan large. Il sème deux défenseurs. Il fait un déplacement qui est super intelligent. il fait juste un petit coup de rein, un petit contre-appel et bam, il les met tous dans le vent, il repart devant et là
il a suivi l'action. En revanche, on peut parler du 12 de Manchester. Là, il est catastrophique. Il y a un gars qui se colle, c'est Mahrez qui se colle à la ligne médiane parce que si un ballon ressort, il va pas être hors jeu, il va partir tout droit, il le fait. Le 12, au lieu d'être à côté de lui, il se met 50 mètres plus loin. Donc, il arrive, quand il arrive sur sa course, il fait effectivement ce que tu dis avec le rebond du ballon, il attend de se mettre dos au but et là le 12, il le regarde. J'ai jamais vu un joueur de foot comme ce soir être payé pour jouer les plombs.
Non, il défend sur le coup parce que il est pris de vitesse. Il arrive à repasser devant.
Mais il arrive.
Et il voit pas, il peut pas voir la course de Vardy parce qu'il est seul face à Mahrez. Il a un contrat face à Mahrez.
Non, il est immobilisé, Vardy.
Tu veux qu'il coupe, qu'il fait l'erreur.
C'est Phil Jones qui quitte sa zone.
Oui, il joue les plombs.
Qui quitte sa zone et qui laisse l'espace à Vardy.
Voilà.
Mais moi, je préfère parler des côtés positifs plutôt que des côtés négatifs. Et si tu veux, c'est un but, moi, qui m'a ravi. Et simplement, je trouve, du point de vue esthétique, c'était absolument magnifique à voir. Les buts de Manchester United sont très beaux également. La façon dont Juan Mata, le coup franc est superbe. Le but de Juan Mata également d'une intelligence incroyable, la façon dont il frappe son ballon sur l'herbe, en fait, pour, de quelque sorte, tuer tout effet et tromper Kasper Schmeichel. Donc franchement, on a vécu un match franchement épatant. Mmh. Mais malgré tout, tu te dis, tu sors de là, tu te dis, mais comment se fait-il que Leicester City, dominé, concédant toutes ses occasions, à 10 contre 11 après l'expulsion totalement justifiée de Daniela Martey, se retrouve tout d'un coup dans les 10 dernières minutes à mettre la pression au point qu'on se disait également, mais ils vont égaliser à 10 contre 11, mais c'est hallucinant. Contre Manchester United, la seule équipe qui était en train qui essayait de rester collé à Manchester City. Et là, bon, Mourinho, bien évidemment, c'est une semaine très compliquée pour lui. Mais il y a quand même des questions à se poser sur la façon dont cette équipe a géré cette situation.
On va y revenir sur
totalement non Mourinho.
C'est l'esprit castré, c'est ça, Philippe, c'est l'esprit castré.
On va y revenir sur José Mourinho dans quelques instants. Juste, on va écouter la réaction de Claude Puel après ce match nul. J'allais dire cette victoire, mais c'est vrai qu'elle a finalement un parfum de victoire. Pour Leicester, de partout ce soir entre Leicester et Manchester United. La réaction de Claude Puel, l'entraîneur des Foxes.
De bonnes choses, il y a de belles actions, je pense qu'on peut encore s'améliorer, on a de belles situations et des bons mouvements qui peuvent être mieux concrétisés. Mais globalement, je pense qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à jouer de cette manière, à jouer au sol, et il faut continuer comme ça.
Allez, il est satisfait, Claude Puel. Et puisque tu commences à aborder José Mourinho.
Ah, Claude Puel, c'est génial. Il est toujours
entraîneur Puel, de toute manière. C'est parfait. Il est fait comme un poisson en l'eau en Angleterre.
Ça a été un scandale, la façon dont il s'est fait virer de Southampton. Je peux dire qu'il le regrette aujourd'hui, d'ailleurs.
Je pense qu'il le regrette pas mal.
On va accueillir Shaker. Shaker ou Shaker, d'ailleurs?
Shaker.
Rien à voir, le truc. Ça va, Shaker, ou quoi?
Non, ça va pas.
Ah, parce que t'es supporter de United.
Exactement, supporter de United.
Voire même du Real, peut-être aussi, en plus.
Non, pas du tout. Et en général, quand je vous appelle, c'est que ça va pas. Donc, ça faisait un petit moment que je vous avais pas appelé. Mais du coup, c'est pas une défaite, mais on sent ça comme une défaite. Moi, personnellement, j'ai pas vu un beau match, depuis le match de City. Donc, ça fait 4 matchs à la suite que United est très mauvais. Très, très, très mauvais. Moi, j'ai vraiment pas vu un beau match aujourd'hui. On pensait que le retour de Pogba allait faire quelque chose, que ce soit mentalement, techniquement, etc. Moi, j'ai vu une équipe très mauvaise, très fatiguée. Déjà, ça, c'est une chose, c'est que cette équipe n'avance plus depuis.
Mais Shaker, c'est grave. T'as vu le programme que vous avez pendant les fêtes? Vous avez un jour et demi de repos, je crois, entre chaque.
Exactement.
C'est la plus petite moyenne.
J'ai vu le.
Non, mais même aujourd'hui, je suis désolé, mais c'était un match où on pouvait gagner parce que Leicester ne marche pas forcément. Leicester n'est plus Leicester de il y a deux ans, avec Ranieri. Quand on regarde les occasions loupées par United, moi, je vais me poser deux questions. La première question, c'est d'abord sur les choix de Mourinho et l'influence qu'il a sur son groupe. Quand je dis ça, c'est par rapport à la blessure de Smalling à la fin du match. Pourquoi il ne le sort pas? Pourquoi il ne le met pas avant?
Mais il peut pas, ils ont fait des changements
pourquoi,
à ce moment-là.
Non, mais pourquoi on devrait avoir peur de jouer à 10 contre 10 contre Leicester pour les 5 dernières minutes?
Non, mais tu peux pas.
Non, mais je sais ce que tu fais.
Excuse-moi, Shaker, je t'interromps, on va te redonner la parole tout de suite, mais simplement parce que j'ai en tête un cas exactement similaire où je me souviens voir Freddy Ljungberg avoir un type de blessure comme ça et où on lui a dit, tu sais ce que tu fais? Tu restes en rond central. Tu ne bouges pas. Tu serviras de plot s'il le faut. Si jamais le ballon vient à toi, bah tu le passes à un... Mais surtout, tu ne te mêles pas au jeu parce que ce que tu vas faire, tu vas complètement dérégler le jeu autour de toi. Et le pauvre Smalling, il n'y peut rien. Il n'y peut absolument rien.
Mais moi, je critique pas du tout Smalling. Oui. Je critique Mourinho. Oui. C'est ça le problème, c'est que Mourinho, il vient de se plaindre, de chouiner encore une fois en conférence
mais
de presse.
Mais c'est du Mourinho, mais on le connaît tous.
Mais moi, je critique.
C'est ce qui te sert
ça.
Quand les
c'est
résultats ne sont pas bons, quand ils
c'est
sont
ça,
pas
le
pour
problème,
son équipe.
Il est en train de dévier
c'est sa dialectique.
Les critiques sur les joueurs et non sur lui. Rien ne l'empêche de sortir Smalling, sachant qu'il a déjà deux défenseurs centraux sur le terrain en la personne de Jones et Lindelof. Il loupe ça. Il sort Mata, il fait rentrer Herrera, ou plutôt
ça,
il sort Lingard, il fait rentrer Herrera à 10 contre 11. Tu envoies un message négatif à tes joueurs. Et le pire dans tout ça, c'est que tu critiques tes joueurs. La mauvaise, on va dire, influence que José Mourinho et sa négativité a sur ses joueurs font que ces joueurs loupent des face-à-face et ne se remettent jamais en question. Ils n'ont pas peur, il n'y a rien.
J'ai trouvé juste une équipe d'United et on l'a vu sur les coups de pied arrêtés notamment, qui était les coups de pied arrêtés défensifs pour United, qui n'était pas concentré, voilà, qui n'était pas à son ouvrage. Alors peut-être que le calendrier à venir explique cela, mais c'est certainement pas une excuse.
Non, pas du tout.
Ils n'étaient pas concentrés, ils n'étaient pas dans le coup. Évidemment,
c'est pas
à Leicester.
François Schäker également. Je vais me permettre d'être un petit peu de lancer une petite controverse ici. J'ai toujours eu, en ce qui me concerne, la plus grande admiration pour David De Gea, bien évidemment, comme ce qu'on appelle un shot stopper. Par contre, c'est une chose dont je parle avec beaucoup. Il se trouve que beaucoup de consultants de télévision étrangère sont d'anciens gardiens de but. Et on parle beaucoup de David De Gea parce qu'il fait des choses incroyables sur sa ligne. Par contre, ce soir, il est à la faute sur les deux buts.
Il est à la faute sur le premier. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Philippe. Il est vraiment à la faute sur le premier.
Il ne domine
un gardien
pas
plus
ses
courageux.
6 mètres et ses 12 mètres.
Ouais.
Il n'est pas assez
c'est
courageux.
Vrai, c'est vrai. Un gardien plus courageux serait sorti sur le ballon de Mahrez. Sachant que Mahrez n'a pas la pointe de vitesse de Vardy, moi je pense qu'avec une meilleure anticipation et beaucoup plus de courage, David De Gea serait sorti sur le premier ballon.
Non, moi sur le premier but, je pense que De Gea pense que son défenseur va attaquer un peu plus Mahrez. Si Mahrez passe, il reste en dernier rempart.
Pour moi,
il
ne
peut pas
lecture.
Sortir sur Vardy qui arrive.
Non, mais même s'il est fautif, moi j'ai envie de vous dire, avec les occasions que United a en seconde période, c'est pas à cause de De Gea qui
non, nous sommes bien coup, d'accord. C'est pour ça que je te disais, c'était un point que je disais parce qu'on a tendance, on s'emballe.
Après toutes les fois où il
est le meilleur gardien du monde.
Philippe, c'est ridicule. Je l'ai pas mis dans l'équipe type. Hein.
Oui, je sais, absolument.
Pour ce genre de raison, parce que justement, enfin, je trouve qu'en Angleterre, encore plus. Enfin,
sachez que le prochain match de United, ce sera mardi à 16h. Vous pourrez le suivre, bien entendu, sur RMC, parce que nous, le foot anglais, on vous le propose comme personne. Vous pouvez voir d'ailleurs tous les résumés sur rmcsport.fr également chaque heure. Bonne fête, mon gars. À bientôt. À très vite.
À bientôt.
Ciao, Schäker. À bientôt.
Il reste deuxième du championnat, comme ne l'oublions pas.
Ouais,
parce
loin derrière City. Tiens, tu veux faire quoi, la City? Allez, City qui gagne 4-0 face à Bournemouth. Ouais.
Oui, et City. Après, hein. Oui, et City City qui a pas été absolument grandiose aujourd'hui. Qui, comme ça a été le cas plusieurs fois depuis le début de la saison, c'est un peu compliqué. Bournemouth,
c'est une victoire de champion, Philippe.
C'est bien organisé. Bournemouth, ça joue pas mal. Tactiquement, c'est bien en place.
C'est un bon entraîneur.
Ils en voulaient. C'est un bon entraîneur. Il y a de bons joueurs. Oui, et puis ça finit 4-0. Avec là aussi, il y a un but absolument somptueux qui est celui de Raheem Sterling au niveau construction collective, c'est un régal. La puissance est là. En plus de ça, il a pu faire tourner. Alors le seul point d'interrogation, c'est la sortie de Kevin De Bruyne.
Ouais. Il se touchait à la cuisse.
Touché à la cuisse. Alors j'espère très sincèrement qu'il ne s'agit que d'une petite alerte, d'une petite pointe qu'il a sentie et qu'ils se sont dit bon, ok, on va faire en sorte que ce soit pas quelque chose de plus sérieux, comme ce qui par exemple est arrivé à Idrissa Gueye lors du match entre Everton et Chelsea, ce qui est vraiment casse-pied parce que c'est un joueur crucial pour Everton, c'est un joueur crucial pour le Sénégal. On espère que ça sera pas trop moche, mais bon, ils ont fait le boulot, ils en sont maintenant à 17 victoires consécutives. Donc Guardiola est toujours en course pour battre son propre record qui est celui du nombre de victoires consécutives dans un grand championnat. Je crois que ce moment c'est 19, c'est ça, avec Barcelone.
Ouais.
Je crois que il est numéro 1, numéro 2, numéro 3 avec Barcelone, le Bayern et Manchester City. Là il est en train de monter, c'est peut-être avec City qui va établir un nouveau record.
Est-ce que c'est fréquent qu'une équipe finisse avec plus de 100 points en Angleterre?
Jamais arrivé.
Voilà.
Et là,
pas compliqué, c'est jamais arrivé.
Tiens, et d'ailleurs, parce que tu parles de 100, City, ils en sont à 101 buts là depuis le début de l'année civile. Hein.
Ouais. Alors l'année civile, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et que c'est le total de buts que tu vois parfois en Championship. Mais tu vois parfois en Championship pour une raison plus simple, c'est que t'as 22 équipes. Donc, alors on va un peu plus de matchs.
On va rester dans les buts. Juste vous indiquer que le prochain match de City, ce sera mardi toujours à 20h45. Non, mercredi, pardon, à 20h45, match à Newcastle. Voilà pour Manchester City, et ce sera à suivre sur RMC, bien
équipes,
entendu.
Que je raconte et sur 24 équipes, Nicolas, excuse-moi.
En Championship.
Oui, absolument.
Tout à fait, on le confirme dans l'oreillette, mon cher Philippe.
Non, 24 équipes, je sais pas ce que...
Parlons de Tottenham, mon filou, qui s'est imposé 3-0 à Burnley. Alors, c'est un match qui, loin d'être évident, meilleure défense, mais surtout, Burnley était devant Tottenham au classement, au coup d'envoi de ce match, et triplé du prince de Harry Kane, alors qui a atteint, là aussi, 53 buts sur l'année civile 2017. Alors, 53 buts sur l'année civile 2017, c'est autant que Lewandowski, que Cavani et que Cristiano Ronaldo. Il a un but de Lionel Messi.
C'est le ratio qui est meilleur.
Et il reste un but à jouer encore en 2017.
C'est lui qui a le meilleur ratio.
Et il a le meilleur ratio, il a plus d'un but par match en moyenne, effectivement. Il est magique, ce mec, quand même.
Oui, alors aujourd'hui les buts c'est bon un penalty. Alors tu diras penalty c'est penalty. Oui, certes, il les prend, mais les autres aussi les prennent. Il le frappe plutôt très très bien même. Celui-là faut l'arrêter. Hein. Et les deux autres, bah c'est tout simplement c'est le geste de l'attaquant, du buteur qui comprend tout de ce qu'il faut comprendre de son art face à un gardien. Qu'est-ce que tu veux
c'est
que
l'appel,
je te dise ?
C'est l'appel sur le deuxième où il sème toute la défense juste un coup de rein. Il est pas très rapide non plus. Hein,
mais il est pas très rapide.
Il est super intelligent.
Il est super intelligent. Il utilise le peu de vitesse qu'il a parfaitement. Techniquement, c'est un joueur qui a également progressé énormément. J'ai entendu dire que c'était un joueur qui techniquement n'était pas très
qui
fort.
A dit ça
mais là, je ne citerai pas de nom.
Je pense qu'on
saura exactement de qui il s'agit. Alors que techniquement, c'est un avant-centre complet. Je veux dire, il sait tout faire. Il sait absolument tout faire. Pied gauche, pied droit, tête, poitrine, tout ce que vous voudrez, talonnade. Il a tous les gestes.
Non, mais c'est le débat. C'est le débat à la Cavani, quoi. Tant qu'il a pas fait 15 petits ponts, dépassement de
zone,
etc.
Je vais vous filer parce que c'est vrai qu'un nombre de buts comme ça sur l'année civile, ça veut pas forcément dire grand chose. Juste, Laurent Fala qui a bien bossé encore, il vous pose la question sur le compte Twitter de l'After. Quel est pour vous l'attaquant le plus complet d'Europe? Harry Kane pour l'instant à 12% des voix, 27% pour Cristiano, 39% pour Lionel Messi et autres 22%. Il y a Agüero, il y a Cavani.
Mais ça n'a rien à voir.
Il y a Lewandowski. Ça n'a rien à voir. Juste quand même une petite stat également. Moi, j'ai regardé depuis le début de la saison, il a planté 21 buts en 23 matchs, Harry Kane. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a plus de matchs dans lesquels il n'a pas marqué que des matchs où il a marqué. En fait, ça veut dire quoi? Qu'il met beaucoup de doublés et de triplés. Donc, ça veut pas forcément dire qu'il marque à tous les matchs, mais que, en gros, les buts, c'est comme le ketchup. Quand il est lâché dans un match, il en met beaucoup. Non, mais il y a un peu de ça aussi.
Oui, non, mais surtout, c'est un diesel, hein. Donc, on sait qu'il a toujours des petits problèmes au mois d'août et au mois de septembre et tout ça. Bon, ok, on est au courant. Mais c'est un diesel qui va terminer avec, il va faire ses 40 buts et il est parti pour, si jamais il a pas de blessure. Et il a déjà eu une petite blessure. Il va terminer avec plus de 40 buts en championnat, ce qui est complètement hallucinant. Je dis bien hallucinant. Et comme numéro 9, je pense qu'en Europe, en effet, il y a que Cavani avec lequel tu puisses le mettre en... Bon, et Lewandowski, on va dire. Cavani, Lewandowski, Harry Kane, et voilà. Je crois que là, t'as fait le tour et ces trois-là sont au-dessus.
On n'a pas l'impression qu'il est autant valorisé que cela.
Non, mais c'est parce que c'est pas un joueur qui. Mais de la même façon que Lewandowski et Cavani sont pas des joueurs hyper valorisés. Hein. C'est pas des joueurs que tu vois en permanence
en
faire
France.
Des pubs.
Il faut mettre Falcao dans le lot aussi.
En France.
Pour son début, c'est pour ça.
Parce qu'en France, on aime les beaux jeux, je comprends. Les attaquants racés, ok, je veux bien, mais quand il s'agit de mettre les pions et que t'as un mec qui a pas la technique de Maradona, mais qui te les enfile comme des perles, là, on commence à faire la
différence.
Je pense qu'on a une conception en France du rôle de l'attaquant, qui est un attaquant très stylisé. De toute façon, on a un football stylisé où on se regarde les pieds, on se regarde le nombril. Quand t'as un mec qui est extrêmement réaliste, pragmatique, comme on l'a dit, qui est
bon partout. Combien d'avant-centres dans l'histoire de l'équipe de France? On a eu juste Fontaine, Jean-Pierre Papin, et ensuite, bon, on en a eu quelques autres.
Pierre Gignac.
Tu parles de la crème de la crème. Là.
Thierry Henry.
On a le football français a pendant des décennies et des décennies et des décennies joué sans avant-centre. On n'avait pas d'avant-centre où ils étaient pas très très bons.
Que Mika Pagis n'avait pas les faveurs.
Exactement. Des décennies. Kanto, Papin, Rocheteau.
Quand même,
Kanto n'était pas avant-centre. Rocheteau, d'accord.
Ah, tu parles de neuf pur.
Oui, de neuf pur. On en a très très peu
très
dans
aiguë.
Notre
très aiguë.
très aigué, mais
et très aigué, ça va.
C'est ce que je te dis. Juste Fontaine.
Et les débats qu'on a entendus sur très aigué aussi.
Et ensuite, bon après, on en a après ça. On a très aigué.
Le prochain match de Tottenham, ce sera mardi. D'ailleurs, ce sera le premier match de la 20e journée de Première Ligue. Tottenham face à Southampton.
C'est une grosse perf qu'ils font là.
Oui,
parce que c'était pas des peintres en face.
Ce sera donc, et peut-être d'ailleurs que Harry Kane au cours de ce match, eh bien, égalera Lionel Messi sur le nombre de buts sur l'année civile. S'il a marqué face à Southampton, ça ferait 54.
Et l'autre chose à remarquer dans ce match de Tottenham, c'est que Dele Alli, qui était complètement au fond de la fosse.
Ouais, il aurait pu prendre un rouge quand même. Il obtient le pélo, mais.
Il aurait dû, mais c'est pas la première fois d'ailleurs cette saison, mais par contre lorsqu'il n'a pas pris ce carton rouge, il a fait son match le plus plein depuis très 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 longtemps, et je crois que c'est l'une des choses qui satisfera le plus Mauricio Pochettino.
Un petit mot très rapide, mon filou, sur Chelsea qui fait match nul 0-0 face à Everton.
Ouais, des choix bizarres de la part de Conte, il s'est un petit peu j'avoue avoir du mal à comprendre comment face à une équipe comme Everton tu joues sans avant-centre, où t'avais
Il met Hazard en faux neuf.
Moi, je veux bien.
Pourquoi? Okay. Il y avait
Michy sur le banc.
Ouais, voilà.
Pourquoi Michy sur le banc? Parce qu'il ne l'apprécie pas, parce qu'il ne pense pas qu'il est à la hauteur. C'est dingue que je te dise. Et du coup, ils perdent 2 points bêtement. Bon, alors ils perdent 2 points face à une équipe d'Everton qui est devenue difficile à battre. Ouais. Est devenue difficile à battre avec. Alors là, par contre, un excellent gardien, lui, très très courageux, qui s'appelle Jordan Pickford, et qui sera sans doute le gardien de l'équipe d'Angleterre. C'est entre lui et Jack.
Super cher, non, en plus.
C'est le gardien le plus cher de l'histoire du foot anglais.
Ouais. Mais les gardiens sont sous côté de toute façon. Les gardiens sont sous côté. Mais ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'il est quand même, elle coûtait quand même moins cher que Gigi Buffon quand il avait été acheté.
Et que Ederson.
Qui lui, je peux continuer sa progression, ouais, mon super, petit Nico, c'est.
Ouais, c'est un libéraux, c'est même pas un gardien.
C'est les deux. Je crois qu'il a une qualité de passe supérieure à beaucoup beaucoup de milieux de terrain et de défenseurs centraux de milieux défensifs et de défenseurs centraux que je vois en Première Ligue, que je vois également dans d'autres championnats.
C'est merci mon Fredo, le prochain match de Philippe,
moi c'est Philippe, mardi. Mais tu c'est pas grave, c'est
dit
pas
quoi
grave.
Fredo encore. Et
tu as dit Fred une nouvelle fois.
Je suis désolé Philou.
Il est cramé.
Je suis cramé Philippe.
Écoute, je t'ai vu magnifique avec ton néopap.
J'en ai un beau là, et j'ai récupéré celui de Damien Comoli, tu sais, avec les sapins
de papillon. C'est pas vrai.
Mais il me saoule lui.
C'est pas un papillon.
Ah, il est chelou, il est chiant lui.
C'est pas un papillon Philippe, c'est pas un papillon.
C'est quoi?
Bah c'est un
mais
truc
si,
très noué,
il est pas content parce que c'est pas vrai, il y a un élastique autour. Et alors mon pote, on a
pas
tous ces moyens.
Ça va pas, c'est très noué, ça se noue. Un nœud papillon, ça se noue, c'est dans le fond.
Mais les gars, vous êtes des bobos.
Tu vois, moi ce que j'ai, c'est un nœud papillon.
Moi j'achète ça sur internet, je paye ça 2€, je suis bien content.
Mais moi je crois que je l'ai payé cher le mien, ça coûte 10 balles. Mais ça se noue, c'est moi qui le noue.
Mais regarde, il est tout dégueulasse ton truc.
C'est moi qui l'ai noué, c'est pour ça.
C'est Josiane Balasso qui va le nouer en revanche. T'es en train de me la dénouer là. Eh Philou.
Bon.
Repose-toi bien, mon Philippe. Merci beaucoup.
Salut, Philippe. Merry Christmas.
Et on t'embrasse.
Joyeux Noël. Bonne fête. Merci à toutes et à très bientôt.
À très vite, Philippe.
Ciao.
Bisous à toi.
Ciao, Philippe.
On va se faire une petite pause, parce que vous m'avez bien saoulé, les mecs, dans quelques instants en financière. Oh, moi, il se saoulait avec mon lopin.
On va retrouver Philo.
Bim! C'est de l'élastique, ça reste là. On vous attend en 32-7.
Tiens, recommence.
Sur l'hashtag AMC. Et bim! Sur l'hashtag AMC avec François Malardo. Et avec, regarde l'élastique. Et avec, il est taré, et avec Jonathan McCartney. Arrête, ça fait mal. Allez, à tout de suite. C'est complètement pareil, ça.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et on est toujours avec Jonathan McCardy et François Malardo. Tiens, une réaction sur le hashtag RMC Live, puisqu'on parlait de la première ligue de la 19e journée qui vient de s'achever. 2-2 entre Manchester United et Leicester ce soir. Et ça avait débuté par le 0-0 entre Everton et Chelsea. Et Ilan nous dit sur le hashtag RMC Live, mettre Hazard en faux neuf. Quel gâchis. On vous rappelle que le prochain match de Chelsea, c'est mardi face à Brighton, la journée qui débutera à 13h30 avec un Tottenham Southampton. Et peut-être qu'Harry Kane va égaler Lionel Messi comme co-meilleur buteur, voire au-delà, sur l'année civile 2017.
Il a un gros salaire, Michy. Je pense.
Pourquoi?
Je sais pas, je dis mais ça comme ça quoi, vu qu'il est pas en odeur de sainteté.
Yeah, mais c'est les choix d'Antonio Conte, tu sais comment c'est.
Mais ça pourrait être
et
une bonne idée.
Et puisqu'on parle d'Antonio Conte, on file en Italie.
Non, dans le registre des neufs de l'équipe de France, on a oublié Bernard Lacombe.
Ah, ouais, bien sûr, mais en tu sais quoi, j'allais pas endormir.
Non, on a parlé de dizaines d'années, quand même, quand on cherche un peu, on les trouve.
Les résultats de la 18e journée de Serie A, 4-0 pour la Lazio aujourd'hui face à Crotone, victoire de l'Udinese, 4-0 également face à l'Hellas Vérone, 2-2 entre Spal et Torino, Sassuolo a battu l'Inter 1-0, le Genoa a battu Benevento sur le même score, le Napoli s'est imposé 3-2 face à la Samp, l'Atalanta est allé s'imposer à Milan face à l'AC Milan 1-0, et la Juve a battu ce soir la Roma 1-0. On a du
Benatia.
Coup voilà, le Napoli en tête toujours devant la Juve avec un point d'avance, et qui est avec nous? Simone Rovera.
C'est pas Fred, t'es sûr?
C'est Fred Hermel, bien entendu. Fred Rovera. Ça va Simone?
Bonsoir. Oui, ça va, ça va, ça va. Je suis en Italie, j'ai vu un magnifique match de football.
Lequel, Juve Roma, t'as vu
Quoi de mieux?
Juve Roma, t'as assisté, hein, c'est ça?
Ouais, j'ai vu Juve Roma, c'est un seul but, mais sincèrement, ouf. Quel niveau, la qualité, les soirs, les finales bouillantes. Moi, j'ai adoré ces matchs.
Alors, justement, qu'est-ce que t'en retiens? Rentre dans le détail, vas-y.
Mais non, c'est un match, notamment, c'est la Juve. C'est la Juve qui revient à son niveau. Huitième match sans encaisser un but. Une solidité défensive qu'on connaissait depuis longtemps, qu'on avait perdu en début de saison. Et ce soir, la Juve, pour 70 minutes, elle a vraiment dominé la Roma. On sentait vraiment que la Roma n'avait pas compris qu'il fallait attaquer la Juve pour chercher d'avoir un résultat positif. Ils ont cherché d'attendre. La Juve a méprisé les sujets avec quelques joueurs au top niveau. J'ai adoré Mandzukic, j'ai adoré Matuidi à un certain moment, après il s'est blessé, et le blesse est sorti sur un problème musculaire. Et la Roma, à un certain moment, disait, quand il a compris qu'il fallait changer quelque chose, De Francesco a mis 4 attaquants, et là, dans les 15 dernières minutes, elle a eu le droit, waouh, un final un peu vraiment extraordinaire, des occasions, un derrière l'autre pour la Roma, un chute extraordinaire à la 94e minute sur Chic. Et c'était vraiment un Juve-Roma qui a déterminé que la Juve et Naples, ce soir, vont faire un championnat, je pense, un peu différent des autres. Et on a perdu quelqu'un dans la lutte au titre.
Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Le Napoli qui est leader, on va y revenir sur cette victoire 1-3-2 face à l'ensemble de Naples. La Juve qui est derrière à un point. On a l'Inter qui est à 5 points maintenant du Napoli. L'Inter qui a perdu aujourd'hui face à l'Atalanta. Tu veux dire que l'Inter n'est plus dans la course au titre? Enfin, toi, tu les as jamais vraiment vus dedans d'ailleurs, mais...
Moi, j'ai jamais dit que l'Inter était dans la course au titre. Après, les résultats ont fait en sorte que l'Inter restait quand même très haut, était même un tête au classement. Mais sincèrement, si on regarde la profondité du banc de la Juve ou la qualité des 11 titulaires de Naples, ils font un autre championnat. Ils sont prêts pour faire un autre championnat.
Même du banc de Naples.
Ce soir, encore, pour terminer sur la Juve, ce soir, c'est le troisième match d'affilée où Dybala reste sur le banc. On peut dire qu'il y a un problème, oui, peut-être, de la gestion du joueur. Mais c'est un problème des riches, parce que dans ces trois dernières matchs, le club a gagné. Et ce soir, tu n'as pas dit, à un seul moment, moi, il nous manque Dybala.
Le Napoli, maintenant, mon Simone. Alors, on va en parler parce que c'est une victoire qui est importante. Voilà, il y a beaucoup de symboles dans ce match. Victoire 3-2 face à la Samp. Alors, Hamsik a marqué. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, du Napoli. Et il devance un certain Diego Armando Maradona. Il en est à 116 buts maintenant, Marek Hamsik. Comment il la vit, lui, cette comparaison avec Maradona?
Bah lui, il a vu très tranquillement, parce qu'il savait qu'à un certain moment qu'il aurait battu ce record, mais il a jamais vraiment considéré qu'une comparaison existe entre lui et Maradona.
Ah bah, il a raison.
C'est quelque chose qu'il aura fait tout le temps. On fait pas des comparaisons. Aujourd'hui, peut-être qu'on joue plus de matchs, on marque plus de buts, mais Maradona reste Maradona, et il sait qu'il peut arriver à être dans le cœur de Napolitaine à côté de Maradona.
Oui.
Seulement, s'il n'a plus gagné un titre. Et une seule chose que doit faire Naples pour devenir à niveau de Maradona dans le cœur de Napolitaine, on ne parle pas du football mondial, c'est gagner un titre.
Parce que si tu fais une saison comme
ça extraordinaire, mais tu ne gagnes pas, ça reste toujours un championnat raté. Et attention, une question, un détail important, la Sampdoria, si je ne me trompe pas, c'est la sixième défaite consécutive, et les dernières victoires, c'est face à la Juve. L'Inter, après les 0-0 face à la Juve, il vient de faire deux défaites consécutives. Donc, jouer face à la Juve et tout donner, ça risque d'être payé cher dans ces championnats pour l'équipe qui ne sont pas de top niveau.
Comment vous la voyez, vous, cette course au titre? Tu disais tout à l'heure, toi, François, que pour toi, c'était le championnat le plus serré dans le Big Five européen, ce qui n'est pas loin d'être le cas au niveau comptable, d'ailleurs.
Oui, mais parce que c'est deux équipes qui sont vraiment mano à mano. Moi, j'ai la question que je voulais poser plutôt à Simone, est-ce que tu as le sentiment, Simone, que la Juve a un léger ascendant, je passe pas simplement le fait qu'ils aient gagné à Naples, mais un léger ascendant, un ascendant de forme hein, aussi en ce moment par rapport aux Napolitains, qui néanmoins sont pas décrochés. Est-ce que tu penses que Naples est un tout petit peu essoufflé et que la Juve est un tout petit peu plus en forme?
Je pense seulement que la Juve a plus de ressources. Si tu regardes un peu les joueurs qui étaient sur le banc encore aujourd'hui de la Juve, t'as des choix très importants qui Allegri peut faire. Et Naples, tu te rends compte que De Quincinier n'était pas là, il y a eu des problèmes. Depuis que Goulam n'est pas là, il marque moins de buts. on ne sait pas quand il est rentré. Donc, Naples, il est, je pense, au top de ses possibilités en ce moment.
Oui.
La Juve, je vois qu'en ayant retrouvé cette solidité défensive, c'est qu'il peut faire encore un plus du côté offensif. Je répète, Dybala, il a joué 4 sur le dernier match, il était sur un peu les bancs, c'est intéressant. Imaginez que ça peut être un Juventus avec une Dybala au top niveau. Dybala, de la saison dernière, c'est lui qui a éliminé les Barça toute seule.
Il n'y a pas de souci, mais...
Zéro but en Ligue des Champions, Dybala, cette année.
Écoute, ils sont Simonet. La Juve, ils sont toujours en course en Ligue des Champions. Je sais pas si je doute que le Napoli joue à fond la Ligue Europa. J'espère
tu penses qu'il lâcherait, toi ?
Je pense qu'ils sont obsédés par le Scudetto et j'espère que ça arrive à apprendre des erreurs passées et va un peu se servir du matos qu'il a à disposition sur le banc. Il va avoir un nouvel avant-centre qui va arriver, Inglese, qui est très bon. Il parle de prendre Berardi aussi cet hiver. Alors ça semble un peu plus irréalisable, mais si ça se fait, voilà. J'espère juste que voilà, il y a de la qualité sur le banc. Il y a très peu de turnover, ça arrive, on sait qu'il aime bien jouer avec 12-13 mêmes joueurs à chaque fois. Là, j'espère que, et c'est ça d'ailleurs qui leur a coûté, à mon avis, le titre l'année dernière. J'espère que là, cette année, ce sera différent. Et faut pas croire. Moi, je pense que le Napoli a de grandes chances quand même d'être champion.
Simonet, merci beaucoup, mon Simonet. Passe de bonnes fêtes. Joyeux Noël à toi, toute ta famille.
Et une chose quand même, un mot sur Andy que il a.
Je vais passer des meilleures fêtes que Gattuso et que les supporters de Milan. Et c'est la dernière fois, c'est vraiment pour
défaite
dire.
Défaite 2-0 Milan, face à l'Atalanta. Ouais.
Et les 27, il y a un derby en Coupe d'Italie face à l'Inter. Et ça peut être chaud pour tous les deux.
C'est Gattuso, c'est comme Julien Sablé en fait. Mais non, en fait, c'est un peu le même. Sur M6, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend pas compte depuis combien de temps il est là-bas. C'est un joueur qui aurait pu aller dans les plus grands clubs européens. À un moment, il avait des offres, je pense qu'il pouvait aller au Real, par exemple. C'est un joueur qui a viré Mino Raiola parce qu'il a dit non, mais je n'aurai rien à foutre d'être transféré, je veux faire ma carrière au Napoli, même si je peux aller ailleurs gagner plus d'argent. Et c'est rare dans le football moderne d'avoir des joueurs comme ça. Et de le voir briller et d'être le meilleur buteur du club, c'est magnifique.
Cette longévité aussi qui explique que ce record soit battu, parce que comme l'a dit Simonet, après au niveau
il a marqué 116 buts en 478 matchs et Maradona c'est 115 en 259.
C'est pas un attaquant Marek Hamšík, hein.
Et c'est pas un mauvais joueur du tout. Enfin, on parle d'un très bon joueur au niveau européen, mais après
c'est pas un attaquant en plus.
Allez, on lâche Simonet. Merci Simonet.
Ciao Simonet.
Ciao, buon Natale.
Buon Natale. Ciao Simonet, buon Natale. Ciao Bezotto. Quelques petites infos, messieurs. Vous savez que Neymar est au Brésil en ce moment. Il est reparti là-bas.
Ah bon ?
Il a le match amical. Là.
Exactement. Alors c'est aussi pour une bonne cause. Il est avec la famille, si c'est la famille. Mais il a aussi joué un match de charité avec Néné, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, avec les amis de Néné. Il a mis un but de folie que vous pouvez voir d'ailleurs sur BFM Sport. Voilà, c'était...
Il fait ça tous les ans. Il a un bon contrat, Neymar, pour avoir l'autorisation de jouer un match, même si c'est un match de charité.
Il avait déjà fait il y a 2 ans.
Regarde pour voir le but sur BFM Sport.
Après, il t'a mis un lob, le mec. Je sais pas, mais.
Il t'a mis un lob, le gars.
Tu te rends compte, là, ça me gêne pas.
On dirait Jean-Louis Tour dans les buts.
Ça peut arriver, ou non?
C'est pas le genre de match où il risque de se blesser, hein.
Oh, bah, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Ouais.
Tu changes.
Vraiment, la faute à pas de chance.
Il fait 40 degrés à l'ombre. Tu viens de te faire 9 heures de vol. Non, non, mais tant mieux pour lui, hein, s'il a mis des clauses comme ça. Je veux jouer match de charité.
Ce matin, vous l'avez peut-être lu, d'ailleurs également interview de Jacques-Henri Hérault dans l'équipe, le président de l'Olympique de Marseille. Petite déclaration notamment. Je suis assez frappé de la stigmatisation dont souffre Marseille. Marseille dérange, représente un certain nombre de symboles qui attirent parfois un traitement injustifié et inégalitaire, a-t-il déclaré. Autre déclaration de Jacques-Henri Hérault. Ce que je pense du pénalty accordé à Mariano contre le TFC, je vais demander à Rudy Garcia d'intégrer dans les protocoles d'entraînement un stage au cercle nageur de Marseille. Quand Rudy dit qu'il nous manque un peu de vite, je crois qu'il a raison. Après, c'est tellement peu glorieux de gagner sur une action comme ça, mais les enjeux sont ce qu'ils sont, et il faut employer les armes qu'emploient certains. Voilà, vous avez pensé quoi de cette interview? Alors, il revient sur l'affaire Evra, il revient sur beaucoup de choses, hein, Jacques-Henri Hérault.
Sur Evra, c'est la vie de gonfler.
C'était un petit peu démago, mais moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le voir monter au créneau, de sortir un petit peu de ses gonds, entre guillemets. Et je pense que c'est
un peu démago, toi.
Un petit peu, mais bien sûr. Bah
ouais. Il a compté le nombre de pénaux qu'a eu Marseille depuis le début de saison.
Non, mais attends, juste pour terminer là-dessus, rappelez-vous ce que les déclats de Pape Diouf. Et Pape Diouf était adoré par les supporters olympiens. Il en disait des pires.
C'est pas parce qu'il est adoré par les supporters que ça commence.
Mais ça me fait plaisir de le voir monter au créneau un petit peu.
Oui, des bagots. Moi, je suis un peu populiste, mais c'est vraiment de bon goût par rapport à son rôle et dans un club comme Marseille qui a une identité particulière. Maintenant, moi, la chose que j'ai vraiment trouvé maladroite là pour le coup, et je sais pas qui le conseille en com, c'est d'arrêter de stigmatiser l'arbitrage contre ton club. Parce que si je peux vous dire une chose qui même indirectement fout en run le corps arbitral français ou ailleurs, mais en tout cas c'est le corps arbitral français, c'est que quand t'as l'impression que tu sous-entends qu'il y a une forme de favoritisme et donc implicitement une forme de malhonnêteté. A...
Moi, quand je parle de ça,
les mecs, tu te les aliènes.
Non mais
attends, laisse-moi finir. Et quand un joueur, voire un entraîneur, passe encore, mais le président de club, il doit prendre un peu plus de hauteur par rapport à l'arbitre.
Surtout qu'il a la ligne.
Moi, je suis content parce que c'est pas pour. Je pense que c'est.
Je pense que c'est le club, je suis
supporter de l'OM, mais quand tu regardes, on va dater ça, l'année Bielsa. Et qu'on dit que ça s'équilibre, je suis désolé, ça s'équilibre, ça s'équilibre.
Mais comment peux-tu, comment tu peux dire un truc pareil? Comment tu peux, quand t'es, non, mais attends.
Il y a eu
Comment tu peux, quand t'es dirigeant de club, compter le nombre de pénaux que t'as pas eu depuis le début de saison?
Ah, mais c'est idiot. Mais monter au créneau sur le fait que l'arbitrage est souvent des faveurs.
Mais je pense que
les supporters attendaient ça.
Tu peux dire. Et voilà. Merci. Les supporters l'attendent. Et comme t'es président et que t'es branché avec le supporter. D'ailleurs,
il est ultra connecté
dans l'entretien. Qu'il est très
mais là, je suis d'accord avec toi.
Mais moi, je vous le dis d'un point de vue, il n'est pas que connecté avec les supporters. Il rentre au conseil d'administration de la LFP. C'est l'Olympique de Marseille. Ne t'aliène pas le corps arbitral à travers une interview. Ne le fais pas, c'est maladroit. Les mecs, quand ils vont venir à Marseille, à tort ou à raison, mais ils savent, ils oublient jamais les déclarations d'un président de club. Et ça dessert ton club.
Tiens, je reprends juste les déclats sur les pénaux. Si on prend les chiffres depuis la saison 2016-2017, l'OM a bénéficié de 5 pénalties. Lyon en a bénéficié de 19.
Qu'est-ce que ça veut dire?
19. Je ne suis pas paranoïque, mais je veux, paranoïque.
Non, mais qu'est-ce que
mais je veux juste comprendre, voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as une attaque où t'as des mecs qui ont un profil de dribbleur plus que des gars qui foncent tout droit, tu peux pas.
En l'occurrence, c'est vrai que les pénalties à l'OM, c'est très rare. Et les pénalties non sifflées à l'OM sont très rares.
C'est Jean-Guillaume qui t'a payé le smoking?
Comment?
C'est Jean qui t'a payé le smoking?
Non, parce que Jacques Moreau, je suis loin d'être.
Autre président de club, messieurs, et pour lui, c'est un petit peu moins la joie en ce moment, c'est Gérard Lopez, qui a expliqué sur le site officiel du LOSC le choix Christophe Galtier. Vous savez qu'il y a un accord de principe qui a été trouvé hier soir.
Sportivement, qui le justifie.
Nous avons pris le temps nécessaire à la réflexion et à la décision et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir annoncer cet accord de principe. Christophe est certes un ancien de la maison. Il y a joué dans les années 80-90. Mais c'est surtout un technicien performant et exigeant et qui partage la même passion, la même envie, la même ambition que le LOSC. Il est évidemment conscient de la situation actuelle, mais c'est montré absolument comme nous, absolument convaincus de la pertinence du projet, du fort potentiel de notre équipe. On rappelle que Lille est barragiste en moment en sport.
C'est vrai que c'est très cohérent. Après Marcelo Bielsa, de passer à Christophe Galtier.
Ouais. Et si Galtier fait mieux que Bielsa, alors ça veut dire que dans le foot, vraiment, tout est possible.
Tiens, autre petite info également. Alors, ça concerne le Paris Saint-Germain. Vous savez qu'il y a pas mal de rumeurs qui annoncent un départ de Unai Emery. Il y a notamment une rumeur qui revient à un entraîneur qui a annoncé, c'est André Villas-Boas.
Ah, il fait le Dakar.
Qui est, exactement. Alors tu crois pas si bien dire. C'est vrai qu'il est très proche d'Antero Henrique, le directeur sportif du PSG. Alors il est libre depuis son départ du Shanghai SIPG, l'entraîneur portugais, et il va prendre part au Dakar. Il va conduire une bagnole. Ça démarre le 6 janvier depuis Lima. Ça se termine à Cordoba en Argentine. Et il a répondu dans le quotidien portugais Abola à la rumeur l'envoyée au Paris Saint-Germain. Je le cite. Je suis un entraîneur professionnel libre de tout contrat et j'ai le bonheur d'avoir une carrière qui associe mon nom au meilleur club du monde. Si ça venait à se produire, je serais très heureux. Toutefois, ma tête est à Cordoba et au podium de la ville argentine où s'achèvera le Dakar. Pour l'instant, c'est là-bas que je veux être. Voilà,
c'est bonheur de faire le Dakar, il a raison.
Ouais. Mais c'était son rêve d'ailleurs.
Il a raison, c'est
je crois qu'il a un oncle à lui qui l'a fait il y a quelques années dans les années 70.
Vous voyez, vous, Villas-Boas, tenir un vestiaire comme celui du PSG?
Pourquoi pas?
Ouais.
Je sais pas.
Ah, pourquoi pas? Bon, moi, je sais pas. Je vois pas.
Non?
Pas convaincu. Non, moi je pense que si Paris décide de séparer Dounaï avant la fin de l'hiver, ça va être bien compliqué. Je pense que ça n'arrivera pas.
Messieurs, c'est terminé. Voilà, c'était les dernières affaires de l'année.
Voilà.
Merci les gars.
Ouais.
Passez des bonnes fêtes. Un joyeux Noël. Voilà, des meilleurs vœux à vous, Jonathan, à François, à toutes les équipes techniques qui nous ont aidé toute cette année à réaliser tous ces afters, à toutes les équipes éditoriales aussi, à Jérôme Thomas notamment, à Cyprien Kélao, à Daniel Torres, à tous ceux qui sont à la régie. Je ne pourrais pas tous les citer parce que je suis déjà à la bourre, je vais me faire engueuler.
Et les maquilleuses.
Ouais, surtout ma femme d'ailleurs, que j'embrasse
très fort
et que j'aime très fort.
Qui m'a maquillé une fois d'ailleurs.
On va s'expliquer, toi et moi, je suis pas au courant de cette histoire. Je ne savais pas du tout. Merci à toutes et à tous. À très vite, on se retrouve dans quelques jours, l'année prochaine.
Bon réveillon à tous.
Bisous, prenez soin de vous et pensez à ceux qui sont seuls surtout parce que c'est le moment ou jamais. Bisous.
Ouais.
Et puis il y aura les best-of bien entendu dans les prochains jours. Mais oui, bisous les gars.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.